Fred Film Radio, Festival de Cannes, France.
Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. Aujourd'hui, je suis avec Charles Tesson en ce premier jour de la semaine de la critique pour parler de cette 58e édition. Bonjour Charles.
Bonjour.
Alors la sélection, vous l'avez faite parmi plus de 1000 longs métrages pour réduire à 7 longs métrages, en tout cas en compétition. Quel consigne vous donnez avec le comité de sélection avant de commencer cette grande entreprise de sélection?
Ce que je dis, c'est que il faut être ouvert, il faut accueillir tous les films quels qu'ils soient et les évaluer pour ce qu'ils sont. Et par rapport aussi à ce qu'on connaît de ces cinématographies-là aussi, c'est-à-dire, autant que faire se peut, hein. C'est-à-dire si on voit un film marocain, en quoi tout d'un coup il nous plaît en tant que film marocain et en même temps en quoi il apporte peut-être une tonalité nouvelle par rapport à cette cinématographie ou cette région, quoi. Mais c'est surtout le critère pour le comité, c'est à la fois l'envie de voir énormément de films, l'envie d'être un défricheur et de découvrir, de voir des films qu'on aime moins, puis d'autres, tout d'un coup, il y a des perles, puis d'avoir des surprises, quoi. Donc, je pense que la clé importante, c'est l'état d'esprit, l'enthousiasme et l'envie. Et après, je pense qu'il faut, la qualité, c'est qu'il faut, je dis toujours qu'il faut savoir accueillir les films pour ce qu'ils sont, et non pas penser à des cases, c'est-à-dire, il nous faut une comédie, il faut un feel-good movie, il faut un film d'horreur, il faut être un film plus radical, minimaliste, il faut... Et on va composer un programme en composant déjà des menus préétablis, quoi. Alors que ce que je dis souvent, c'est qu'on est plutôt dans la cuisine nouvelle bio, si je puis dire. On va au marché et en fonction des produits qui sont bons, on compose un menu, quoi. Et on fait pareil avec les films, quoi. Donc c'est un peu ça ce qui préside à l'ensemble. Mais c'est vrai qu'on a un ratio très élevé, on choisit un film sur 100, en fait.
Quelle tendance avez-vous remarqué dans le pool de tous les films qui vous ont été soumis, et je ne sais pas dans quelle mesure ils se retrouvent dans votre sélection, parce qu'on compte un peu sur vous aussi pour donner le pouls du jeune cinéma.
Ça, c'est important, effectivement, dans le principe de composer une sélection quand on a aussi peu de films, c'est de se dire aussi d'avoir une perception un peu des lieux de cinéma et comment ils bougent ou que certains se révèlent. Parce que des fois, par exemple, on peut voir des bons films. Un bon film iranien, comme on en voit tous les ans, si je puis dire, et ou dans d'autres pays, enfin, je prends ce pays-là, il y en a d'autres, ou un bon film argentin, mais qui ne nous dit pas quelque chose de plus. Et tout d'un coup, cette année, ce qui nous a séduit, je pense que ça se voit dans la sélection, c'est des films en provenance d'Afrique du Nord, du Maghreb, Maroc et Algérie, deux premiers films, ce qui est déjà beaucoup, il y en a sept en termes de territoire, qui nous ont à la fois séduits, puisque c'est des jeunes générations qui arrivent, mais qui surtout s'approprient le cinéma avec une manière qui rompt avec, je dirais, les autres générations, qui étaient plus, je dirais, pour faire simple, même s'il y a des très beaux films, hein, dans la chronique réaliste, et eux, soit c'est sur le ton de la fable et de l'humour, comme pour le Miracle de cet inconnu, ou alors presque un film... un road movie, body movie à l'américaine dans le désert pour évoquer les sombres années des années 90, la guerre civile en Algérie, quoi. Donc c'est des choix presque inattendus et qui permettent de traiter des sujets de société très forts, parce que la fable de Saint Inconnu parle de la religion et comment tout d'un coup un pays dépérit, mais quand la religion arrive, il devient plus prospère. Ah bon ?
Et en effet, pourquoi ? Et j'ai noté qu'il y a aussi une représentation intéressante de certains pays d'Amérique latine.
Et l'Amérique centrale, dans l'Amérique latine, puisque on connaît des pays où on sait qu'il y a très souvent et chaque année de bons films, hein, au Chili, au Brésil, en Argentine, Colombie, au Mexique. Mais là, c'est des pays où il n'y a aucune infrastructure de cinéma qui a révélé des films et des cinéastes intéressants. Un, c'est Nuestras Madres de César Díaz au Guatemala, dans un pays où on connaît juste, il a été monteur de Jairo Bustamante, qui avait fait découvrir le cinéma guatémaltèque avec Iscanul, hein, et puis Tremblement. Donc c'est bien que tout d'un coup les choses arrivent, et qu'il parle des disparus de la dictature militaire. Il le fait de manière extrêmement simple, à la fois personnelle et très bouleversante. L'autre belle surprise, c'est le Costa Rica, où là, le cinéma costaricain est quand même une chose dont on ne connaît rien, et tout d'un coup, il y a une jeune réalisatrice qui a fait Valentina Morel un court-métrage, qui est très très bien, Lucia Le Limbo, donc je pense qu'elle aussi passera au long-métrage prochainement, et Sofia Quiros, Cenisa Negra, Cendre Noire, dont on avait montré Selva en compétition court-métrage il y a deux ans, et qui, pareil, c'est une histoire d'une jeune fille qui est d'une préadolescente, qui découvre la vie à travers un couple d'adultes, qui l'initie un peu à ce que c'est que l'existence sous un mode presque fantastique de réalisme magique. C'est très élégant et très très beau. Donc oui, c'est vrai que c'est des, C'est... Après, il y a des films dans la compétition qui sont là pour ce qu'ils sont. Mais s'il y a deux régions, c'est vraiment ces deux-là. Enfin, l'Amérique centrale et puis l'Afrique du Nord.
Thématiquement, pareil, c'est difficile de dire qu'il y a vraiment des axes thématiques. Mais il y a quand même un thème de la guerre ou du moins des plaies du passé qui revient dans la sélection.
Il y a... Les liens, on les découvre une fois qu'on a choisi les films. Mais c'est vrai, ça, entre des cinéastes qui ont une trentaine d'années aujourd'hui, qui sont donc nés soit entre années 80-90, disons, ouais, enfin, cette période-là, ont été trop petits, mais ont entendu parler des guerres qui concernaient plus leurs parents qu'eux, c'est-à-dire la guerre civile qui a détruit l'Algérie dans les années 90, c'est le cas d'Aboulela, et puis dans le film d'Audelaire Rapin, la guerre en ex-Yougoslavie, en Bosnie. Et c'est assez frappant de voir comment des jeunes cinéastes-là, ces conflits-là de ces années 90 deviennent quelque chose qui leur permettent d'interroger à la fois la réalité du monde et dans quel monde ils sont nés et ils ont vécu, quoi. Donc je trouve ça intéressant comme lien. Il y a beaucoup d'histoires aussi de croyances et de folies ou de miracles, le miracle du saint inconnu ou le haut de l'air à pain. Les héros ne meurent jamais. C'est quelqu'un aussi qui pensait de la réincarnation d'un mort en guerre d'un soldat tué en guerre de Yougoslavie. Et il y a une sorte de folie, de croyance, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça qui traversent et dont on s'aperçoit après coup. J'aime bien, il y a des choses qu'on peut voir comme lien lorsqu'on choisit des films, mais il y a toujours des surprises une fois qu'on est face au tableau des films, qu'on en parle, on se découvre des connexions entre eux, quoi.
Bah, en propos justement du film d'Audelaire Rapin, que j'ai vu, cette recherche de jeunes réalisateurs par rapport à un passé... induit une sorte de recherche cinématographique, fait que la méthode est également intéressante et donne lieu à des propositions assez originales.
C'est l'intérêt, je trouve, du film d'Audelaire Rapin, c'est que c'est une interrogation sur le cinéma aussi. Mmh. Et je trouve que c'est même un film presque tout autant sur le cinéma lui-même et son pouvoir, parce que lorsque lui a cette hallucination en disant « je suis la réincarnation de quelqu'un qui a été tué, parce que le jour où il a été tué, c'est mon jour de naissance », il y a une forme de folie. Il y a une cinéaste amie qui est jouée par Adèle Haenel, le croit sur parole, comme on dit, et qui décide de faire un film et de l'accompagner dans sa croyance pour remonter à la source de cette supposée réincarnation. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est du mensonge? Est-ce qu'on n'y croit pas? Mais il y a un moment où, tout d'un coup, le cinéma que fait Adèle Haenel dans le film est une mise en scène pour que l'autre croit à sa folie, quoi. Donc tout d'un coup, on passe du croire sur parole à la mise en scène qui a le pouvoir de produire de la croyance, quoi. Donc ça parle de cinéma, quoi.
Oui, puis c'est comme si le film qu'elle faisait se redéfinissait au fur et à mesure du film.
Absolument, absolument. Elle passe par tous les états, le film passe par tous les états. Entre presque le documentaire caméra cachée, avec quand ils vont dans un café, puis ils disent ça y est, je suis la réincarnation, les autres ils prennent pour fou, on se croirait dans un sketch de caméra cachée. Et ça passe par tous les états, effectivement. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le film. Puis même l'acteur, celui qui joue Jonathan Cousinier, c'est une belle métaphore du métier d'acteur, parce que il est persuadé d'être un autre, il est hanté et possédé, et c'est une métaphore du comédien quand même par rapport au personnage, quoi. Donc je trouve ça intéressant.
Est-ce qu'on retrouve ça dans le film que je n'ai pas encore vu d'Afsia Herzi, Tu mérites un amour, qui est donc avec le film d'Audelaire Rapin, l'autre projection spéciale de premier film de jeune réalisatrice française. J'ai entendu dire qu'il avait été réalisé très vite avec des amis, avec des moyens assez simples.
C'est un film dont on ne savait pas, connaissait pas l'existence. Moi, j'ai appris qu'il existait par un SMS que m'a envoyé Afsia Herzi en me disant l'été dernier, pendant à raison de 5 jours sur 3 mois, avec des amis, j'ai tourné un film non déclaré, parce qu'il est sauvage, comme on dit, avec très bien 1 000 euros, 2 000 euros. Ce qui est vrai, mais après je l'ai vu, j'ai fait montrer au comité qui a beaucoup aimé. En fait, l'histoire, c'est qu'au départ, nous, on savait qu'il préparait un long métrage qui s'appelait Bonne Mère, comme Bonne Mère de Marseille, ou Bonne Mère, mais Bonne Mère au pluriel. Et qui était un projet en chantier, mais qui, en fait, on n'avait pas de nouvelles, on ne savait pas où il en était. En fait, il a été suspendu provisoirement, et on a conseillé à Afsia, avec l'équipe du film, de tourner un court-métrage, comme ça, qui est devenu un long-métrage, en fait. C'est ça. Donc, du coup, je pense maintenant il va pouvoir reprendre son projet initial. Mais le film n'est pas du tout... C'est un film très professionnel dans la réalisation, dans l'interprétation. Il est très différent du film d'Audelaire Rapin. C'est la même génération, mais là, c'est plus à la fois personnelle, et puis en même temps, ça dit les jeunes entre 20 et 30 ans aujourd'hui, et une déception amoureuse, comment on se remet d'une déception amoureuse en essayant de composer d'autres histoires d'amour. C'est un film très juste, très simple, très délicat et attentionné. Et puis surtout, elle se libère, je dirais, des attendus, c'est-à-dire l'identité culturelle, la communauté, hors communauté et tout. Elle s'affranchit de ça et du coup, c'est un film extrêmement libre et très attachant.
Alors, à propos de premier long métrage français, en compétition cette fois, il y a un film d'animation aussi.
Ça, c'est important parce que habituellement, le film français de compétition, c'est un premier film et c'est un film de fiction, comme on dit, avec des comédiens. Cette année, on a fait un choix fort pour dire aussi combien ce film-là nous est exceptionnel et qu'on le trouve vraiment important, parce que c'est le film français de la compétition, c'est un film d'animation qui est J'ai perdu mon corps, qui est très très beau, qui est d'après un roman librement adapté d'un roman de Guillaume Laurent, qui était le co-scénariste de Fabuleux destin d'Amélie Poulain, et qui est très très beau parce que c'est le titre est beau déjà, J'ai perdu mon corps, enfin c'est une main qui parle. Et qui essaye de retrouver le corps perdu et qui se souvient de sa vie avant. Et c'est beau parce que il n'y a qu'une animation pour faire animer une main, nous faire croire qu'elle peut cheminer toute seule et retrouver son corps, ce qui est une situation un peu invraisemblable, mais l'animation la rend complètement crédible, on accepte ça. Puis c'est un film qui a plein de rythmes, c'est des fois des scènes d'action, avec l'aventure de la main, d'autres des moments plus contemplatifs, plus poétiques. Les dialogues sont très beaux, enfin, c'est vraiment un très très beau film. Enfin, je trouve que des comme ça, moi j'en vois rarement.
Quand vous avez une sélection aussi variée, géographiquement, thématiquement, comment vous composez le programme? Comment vous nous faites faire cette promenade qui dure une semaine sur la Croisette?
On essaye, je dirais que s'il y a un fil conducteur dans la semaine, c'est pas de dire on prend tel film, tel cinéma, c'est de dire que chaque jour vous allez voir un film différent du précédent, puis en même temps on se dit leur place c'est d'être à la semaine. C'est un peu abstrait, mais voilà. Et c'est vrai que quand on passe de Miracle de Satin Connu, Abou Leila, White White Day, J'ai perdu mon corps, Vivarium qui est un film fantastique, ou un film de quatrième dimension paranormal, c'est des choses, c'est pas la même famille de cinéma, mais c'est l'idée qu'on n'est pas là pour décliner la même idée du cinéma chaque jour, quoi. Il faut essayer, autant que faire se peut, en fonction de ce qu'il y a, de dire, tiens, c'est inattendu par rapport à ce qu'on a vu hier, et puis c'est formidable, et le fait que cette succession d'inattendus ou de diversité, ben, la semaine, c'est aussi fait pour ça. Et pas pour dire, le cinéma, c'est ça, ou c'est un pan de cinéma qu'on veut occuper un mini-territoire au sein du territoire du cinéma, c'est pas du tout notre ambition.
Et pourquoi vous avez choisi cette année, pour cette 58e édition, une affiche de couleur noire? Parce que c'est toujours des images de la semaine que vous choisissez. Ça y est, qui change de couleur. L'année dernière, on était en rouge et en salle, et avec des femmes.
On a fait beaucoup d'affiches avec des jeunes comédiennes, oui. Avec une tonalité un peu, comment dire, raccord avec Cannes, c'est-à-dire le solaire, le bleu, le jaune et les couleurs chaudes. Là, l'idée, c'était très simple, c'était aussi de partir du prix Révélation Rod Herrer, qui a été donnée la première fois l'an dernier à un comédien, une comédienne par notre jury, et le prix est allé à Félix Marito pour Sauvage. Donc on avait envie de mettre en avant et en valeur ce comédien. Parce que les affiches auparavant faisaient ça aussi, c'est-à-dire que on révèle des jeunes cinéastes, on montre des films, mais chez les cinéastes, ils ont souvent des comédiens ou des comédiennes qui sont des partenaires. Garance Marillier qui jouait dans Grave et jouait aussi dans ce court-métrage junior Noé Habitat pour Ava de Lamissus, enfin bon, sans remonter à Belmondo ou à Carina ou Bernadette de la Fourmont Nouvelle Vague, mais il y a souvent eu ça, donc on s'est dit c'est bien, hein, le prix d'interprétation pointe ça et l'affiche aussi, donc du coup on a fait le choix de Marito sur plusieurs affiches photos, pardon, mais celle-ci avec son visage, le tatouage, la main, je trouvais qu'elle avait beaucoup de caractère. Merci.
Merci à vous. Nous souhaitons à tous les spectateurs une bonne semaine de la critique. Merci Charles Tesson.
Fred Film Radio, 24/7 on fred.fm and smartphone apps.